Pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur, et on va débuter donc notre leçon pour aujourd'hui, ou notre méditation plutôt pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette semaine qui démarre. Merci pour le souffle de vie que tu as que tu as renouvelé en nous. Et nous avons cette assurance, Seigneur, que si tu nous as encore gardés ici-bas, c'est que tu as encore des choses à faire à travers nous. Alors quel privilège, Seigneur, d'être à ton travail. Quel privilège, Seigneur, d'être à ton œuvre. Merci, Seigneur, de cette grâce que tu nous fais, tous et chacun, d'être utile à l'avancement de ton royaume. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi, reconnaissant que nous avons besoin de te connaître encore davantage. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Et nous avons besoin de cette touche toute spéciale que tu as pour nous aujourd'hui. De toute éternité, tu savais que nous serions ici ce matin avec le désir d'entendre ta voix et de recevoir de ta part des instructions. Et de toute éternité, Seigneur, tu avais préparé ce moment avec une parole bien spécifique pour nous. Alors ce matin, j'appelle, Seigneur, ta bénédiction sur la vie de ma sœur, sur la vie de mon frère et sur moi-même, ô Dieu. Déverse sur nous ta grâce. Et permets-nous, Seigneur, de recevoir pleinement ce que tu avais préparé pour nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on débute donc une nouvelle série sur un seul verset, un verset qui est encore assez connu. On revoit des grands classiques à travers nos méditations matinales. Et c'est l'occasion de remettre des choses dans leur contexte, de faire des ajustements. Et c'est un point qui va être important pour nous ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir dans Romains au chapitre 12 et le verset 1. Romains chapitre 12 et le verset 1 qui nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je répète, Romains 12, 1, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et je crois effectivement, comme je le disais il y a quelques minutes, que l'enseignement de cette semaine va être une bonne suite par rapport à la prédication d'hier, où on a vu Pierre qui a connu un fiasco retentissant après avoir dit à Jésus qu'il l'accompagnerait jusque dans la mort. On a parlé donc du reniement de Pierre. Et on a vu combien ça nous arrive à nous aussi très souvent, et combien on devrait être secoué, embêté très royalement par ce fait. Mais on a aussi vu, et c'était ça qui était important, c'est que la chute n'est pas un point final, il est encore possible de se relever, de se tenir debout, et d'aller de l'avant, et de marcher dans la crainte et dans l'approbation de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette pensée-là avec cette première partie du verset qui dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Exhorter est un terme que j'aime. C'est le terme grec parakaleo. Parakaleo. Je répète pour ceux qui prennent des notes, Parakaleo, qui veut dire appeler quelqu'un de côté pour l'instruire, pour le corriger, pour le consoler, pour le fortifier ou pour lui présenter une supplication. Para qui veut dire à l'extérieur de et kaleo qui veut dire appeler. Donc ici, c'est comme si Dieu appelle à l'extérieur. Ou en l'occurrence, ici, son serviteur Paul qui dit: Je vous appelle à faire un pas de côté pour que je puisse vous exhorter, vous enseigner. Et souvent, cette pensée d'appeler sur le côté, c'est cette première pensée où, lorsque quelqu'un est en train de suivre une voie qui est moins intéressante, de suivre une voie qui est dangereuse, c'est cette idée où quelqu'un nous interpelle pour faire une mise à jour, nous interpelle pour ajuster certaines choses dans notre vie. Et ici, c'est effectivement cette pensée où Dieu régulièrement, que ce soit par l'enseignement qui est donné lors d'une prédication, que ce soit par nos lectures bibliques, que ce soit par une parole, un rhéma, donc une parole inspirée et spontanée de Dieu, quel que soit le moyen, Dieu régulièrement va vouloir faire des mises au point dans notre vie pour que la machine fonctionne correctement. Et c'est une chose importante. Ça veut dire que Dieu pense qu'il est encore profitable, ça veut dire que Dieu pense qu'il est encore approprié d'apporter des ajustements dans notre vie parce qu'on a encore du temps devant nous pour bien performer. Il serait terrible que Dieu nous regarde et qu'il fasse le constat comme quoi c'est plus nécessaire de faire quoi que ce soit. On est allé trop loin ou on est un cas désespéré. Et une telle position ou une telle attitude de la part de Dieu est déjà arrivé. Lorsqu'on regarde l'histoire de Saül, Dieu va choisir David pour le remplacer et il y a le prophète qui est encore en train de pleurer sur Saül. Il est encore en train d'essayer de raisonner le roi, essayer de le convaincre de changer des choses. Il l'approche, il l'exhorte, il l'enseigne, il le conseille. Et à un moment donné, Dieu lui dit, « Arrête de pleurer sur Saül, parce que moi, je me suis détourné de lui. J'ai déjà choisi David. » Ça veut dire que de son vivant, Saül est arrivé dans un état où Dieu n'est même plus intéressé à changer sa vie, son existence, ou à apporter des ajustements. Alors je prie pour toi, je prie pour ma sœur, pour mon frère, je prie pour moi-même qu'on ne puisse pas arriver à un tel état, qu'on ne puisse pas être dans un tel, dans une telle situation où Dieu dit moi je passe à autre chose. C'est même pas nécessaire que je change quoi que ce soit, que je travaille quoi que ce soit sur cet homme ou sur cette femme. Je suis déjà passer à autre chose. Alors rendons grâce au Seigneur, que le Seigneur continue à nous exhorter. Rendons grâce au Seigneur qu'il nous prend encore de côté pour nous enseigner. C'est vrai que lorsqu'on persiste dans une chose, la parole de Dieu nous montre aussi comment reprendre quelqu'un avec deux témoins, puis par la suite comment présenter la chose lorsque la chose perdure, s'accentue, s'accroît, comment mettre la personne dans une période qu'on appellerait discipline et comment annoncer même qu'une personne est en faille importante face à la congrégation. Et la Bible nous dit que dans certains cas même, on ne doit plus fonctionner avec cette personne comme si elle était un frère ou une sœur dans l'Église notamment, et je l'ai eu l'occasion d'en parler, lorsqu'on parle de personnes qui créent des divisions dans l'Église. Donc aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on est à ce moment-là où Dieu dit, « Regarde, je veux te prendre à part et je veux t'expliquer ce qui ne fonctionne pas pour que tu puisses changer les choses. » Et gloire à Dieu parce que Dieu l'avait fait avec Pierre avant sa défaillance. Et Dieu l'a fait avec Pierre après sa défaillance. Avant sa défaillance, Jésus a eu à l'avertir. Après sa défaillance, Jésus a été aussi là à l'exhorter, à l'enseigner et à l'encourager pour la suite des choses. Alors, je t'exhorte ou je vous exhorte donc, frère. Et frère, c'est un terme qu'on a regardé à travers les dernières semaines, le terme adelphos. A-D-E-L-P-H-O-S, A-D-E-L-P-H-O-S, qui veut dire quelqu'un qui partage une même foi, quelqu'un qui, ou des personnes qui ont un même ou des mêmes ancêtres. des gens qui sont associés dans un travail, dans un emploi, dans une entreprise, des compatriotes, donc des gens qui viennent d'une même nation. Et on a vu aussi la semaine dernière, lorsqu'on a parlé du terme Adelphos, on a vu aussi de la confrérie militaire, ce qu'on appelle des frères d'armes, être soldat au sein d'une même armée. Et chacune de ces déclinaisons-là du terme Adelphos pourrait être pour nous un enseignement. Alors, la mise au point, le parakaleo, l'exhortation qui est donnée à des Adelphos. Donc, chacun des termes ou chacune des significations d'Adelphos représente un domaine dans lequel Paul va vouloir exhorter ses frères, ses sœurs et nous en l'occurrence. Alors, des mises au point sur une même foi. Alors, on a besoin régulièrement d'avoir ces mises au point théologiques, d'avoir ces mises au point, mais pourquoi je crois ce que je crois? Et parfois d'aller voir des aînés dans la foi et de demander, mais quelle est la position de notre Église par rapport à tel point ou à tel aspect de la théologie? Et demander des éclaircissements. Et le malheur, c'est que lorsqu'on n'a pas ces conseillers spirituels autour de nous, on peut effectivement prendre des tangentes qui sont dangereuses. On a vu régulièrement tout au long de l'histoire de l'Église, et quand je parle de l'histoire, je parle l'histoire avec un grand H et l'Église avec un grand E, donc depuis 2000 ans que l'Église primitive, que le Nouveau Testament s'écrit, on a vu plusieurs générations, plusieurs époques, ou de façon plus restreinte, plusieurs ouvriers qui, à un moment donné, ont fait des dérapages au niveau de la foi, qui était effectivement dans une foi, dans une doctrine, dans une théologie qui était fondée, qui était adéquate. Et à un moment donné, quelque chose est rentré et on est parti à droite et on est parti à gauche. Dans certaines de ces doctrines, et la Bible nous en parle, il y a certaines personnes qui se sont mis à rendre des cultes aux anges, alors que les anges n'ont pas de culte à recevoir, ce sont simplement des serviteurs de Dieu, des entités spirituelles qui sont au travail de Dieu, qui sont au service de Dieu et qui ne méritent aucune louange et aucune adoration. Il y a différentes doctrines qui sont sorties, parfois tout simplement, et Paul va le dire, que ce sont des doctrines de démons. Donc parfois, c'est des doctrines qui ont l'air très spirituelles, qui ont l'air très sensés, mais lorsqu'on les analyse un peu plus, on se rend compte que ça nous fait dévier de la foi et de la saine doctrine. Je vous ai parfois donné cet exemple. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas en premier. Tu ne peux pas prendre des soins des autres si tu ne prends pas soin de toi en premier. Dans une pensée purement humaine, c'est quelque chose qui est logique. Mais lorsqu'on ramène ça aux Écritures bibliques, on se rend compte que c'est pas du tout chrétien. Parce qu'à la base, Jésus n'a pas essayé de prendre soin de lui pour après ça prendre soin de son prochain. Jésus n'a pas essayé de se préserver lui-même pour être capable par la suite de préserver les autres. Non, il a donné sa vie et le don de sa vie, le sacrifice de lui-même, devenait un moyen de salut pour l'humanité. Et si nous sommes des représentants de Christ et si nous sommes des imitateurs de Christ, donc la pensée de se donner en service pour les autres, de se donner en sacrifice pour les autres, c'est aussi une pensée totalement et parfaitement chrétienne. Mais se préserver soi-même dans le but d'éventuellement prendre soin des autres, c'est une pure lubie, c'est une hérésie. Ce n'est pas biblique, ça ne cadre pas dans la pensée de Christ. Donc, une mise au point à l'occasion au niveau de la foi, au niveau de la théologie, c'est ce qu'on fait régulièrement avec des enseignements, avec des prédications, c'est ce que Dieu nous permet d'avoir dans le perfectionnement du corps de Christ à travers certains ministères, dont les enseignants, dont les docteurs, dont les pasteurs qui sont là pour guider le peuple. De surcroît à cela, Adelphos parle aussi de frères, de fratrie, de personnes qui habitent dans une même maisonnée. Et ça prend parfois des mises au point sur la vie au sein de la famille. Savoir que dans une famille, il y a des règles. Lorsque j'habitais chez mes parents, il était inconcevable que je soupe à 4 heures, que ma soeur soupe à 5 heures et que mes parents par la suite soupent par eux tout seuls à 6 heures. Non, chez nous, c'était une règle que j'ai maintenue même avec Daphné toutes ces années, une fois mariée. C'est une règle chez nous qu'on soupe en même temps, on mange en même temps. Les seules occasions où on ne mange pas ensemble, c'est que l'un ou l'autre ne mange pas un repas, soit en jeûne ou soit indisposé. Donc, l'autre peut peut-être manger, mais celui qui jeûne va tout simplement s'écarter pour ce moment-là. Mais sinon, tous nos repas avec Daphné, si on est dans la même maison ce jour-là et si les deux mangent, on les mange ensemble. Et ça, c'est pas une règle sociale, c'est pas une loi civile, c'est pas le gouvernement qui l'impose, c'est pas même Dieu qui l'impose, mais c'est des règles qui sont au niveau de la famille. Donc, dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a des règles comme ça qui s'imposent pour l'ensemble du peuple de Dieu. Mais de surcroît à ça, au sein d'une famille locale, au sein d'une église locale, il y a aussi des règles de fonctionnement, des règles de vie qui s'imposent. Il y a des églises où on est plus sévère sur un aspect que sur un autre. Il y a des églises où on va permettre telle ou telle pratique ou telle chose qui ne constitue pas des péchés. Soyons clairs, on ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Mais c'est tout simplement, voici comment nous préférons fonctionner. Donc, et ces choses-là, ces règles-là peuvent évoluer avec le temps. Mais régulièrement, il faut s'asseoir avec quelqu'un et lui dire, regarde, chez nous, on ne fait pas les choses comme ça. Chez nous, voici ce que l'on prône et voici comment on veut que les choses fonctionnent. Paul va le faire avec l'église de Corinthe régulièrement lorsqu'il va dire à Corinthe, ben voici comment le culte devrait s'opérer. Si quelqu'un est en train d'enseigner, ben qu'il n'y ait pas 3 ou 4 qui se mettent à prophétiser parce que sinon ça dérange, ça coupe. Donc il y a un contrôle, il y a des règles qu'on impose au sein de la famille locale et les autorités locales de la famille. Quand c'est une famille dans le plus pur sens du terme, mais le papa et la maman règlent les choses. Quand on parle d'une famille locale comme d'une église et d'une congrégation locale, ben les autorités que Dieu a placées sur cette église locale sont aussi appelées à appliquer l'autorité, la discipline et à dire voici les règles de conduite au sein d'une église. Il y a des églises où on ne peut pas porter de bijoux. Donc, il y a des églises où même quand tu es marié, si tu passes sur la tribune, tu n'as pas le droit d'avoir ton alliance. Est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord? C'est pas une question de péché, c'est une question de règles locales. Il y a des églises où on ne peut pas avoir de barbe ou de moustache. Donc, si je vais prêcher là-bas, ben je vais me raser complètement. Pourquoi? Parce que c'est les règles de la maison locale. C'est pas une question de péché. C'est une voici comment nous on pense que on veut adorer le Seigneur et voici comment nous on veut se présenter devant le Seigneur. Vous aurez compris que chez nous, c'est pas une règle. Mais est-ce que ça fait que nous on est mieux, on est moins bien? Non, c'est juste une autre façon de travailler chez nous. En autant qu'on ne touche pas à ce que la Bible appelle péché, le restant des choses, c'est des règles à l'interne d'une famille. Et ces règles-là n'ont pas la portée spirituelle d'un péché, n'ont pas la dimension spirituelle d'un péché et de la sanctification et tout ça. C'est tout simplement une règle locale qui se doit d'être respectée parce que c'est la façon de fonctionner dans un endroit. Une fois, j'étais au Congo et on me demandait, mais quand on fréquente une fille, j'étais avec des jeunes, ils me disaient, mais quand on fréquente une jeune fille, est-ce qu'on peut la prendre par la main pour se promener dans la rue? Est-ce qu'on peut lui faire un bisou? Et dans ma pensée nord-américaine, si tu fréquentes une fille, ben c'est comme normal que tu la prennes par la main, que vous vous promeniez main dans la main, et puis que vous échangiez des bisous, toujours avec une limite. Il y a des limites à pas franchir, mais c'est une chose normale. Mais je leur ai demandé, mais ici, lorsque vous promenez dans la rue, quelle est la pensée de monsieur et madame tout le monde sur un garçon et une fille qui se promènent main dans la main? Est-ce que c'est bien vu ou c'est outrageux? Et eux m'ont dit, j'étais à Pointe-Noire, et eux m'ont dit, pour eux, lorsqu'ils se promènent dans la rue et qu'ils voient effectivement une fille qui tient la main d'un garçon et on se rend compte qu'ils sont amoureux ou qu'il y a une relation entre les deux, c'est mal vu. On ne peut pas le faire. Alors je leur ai dit, mais pour être grec avec les Grecs et pour être juif avec les Juifs, il faut donc se plier à ces normes-là. Est-ce que ça fait que c'est péché? Non. Mais c'est les règles en vigueur dans l'endroit où vous êtes, alors vous devez les respecter. Alors, des mises au point sur la foi et la théologie, des mises au point sur comment on fonctionne dans la famille, des mises au point aussi sur l'œuvre. Adelphos veut dire associé dans une entreprise, veut dire des gens qui travaillent pour un même employeur. Donc, parfois, comme ça se passe dans n'importe quel travail, il y a des choses à ajuster. Même nous, à l'église, régulièrement, on va échanger les pasteurs ensemble en disant, comment on se tient sur telle ou telle chose ou quelle est notre position sur telle et telle chose. Fait que parfois, on va approcher un de nos pasteurs pour leur dire, mais je pense que tu devrais changer tel aspect de faire les choses. Et l'autre va arriver et dire, ouais, je pense qu'il y a tel autre aspect de ce qu'on fait actuellement qu'il faudrait peut-être être changé. Encore là, pas une question de péché, mais juste une question de fonctionnement dans l'Église. Donc, il y a différents ouvriers avec différentes personnalités, avec différentes expériences, avec différents dons, avec différents talents. Et ça prend des ajustements dans le travail, dans l'œuvre. Dernier point concernant Adelphos, des mises au point aussi parce que nous sommes des frères d'armes. Nous sommes des soldats au même bataillon. Nous sommes des soldats dans le même combat ou sur le même lieu de guerre, si vous voulez, sur le même front. Alors parfois, entre soldats, ça prend aussi l'occasion de s'expliquer puis réanalyser la stratégie puis dire voici comment nous attaquons cette bataille, voici comment nous nous préparons et voici comment nous allons affûter nos armes pour tel ou tel combat qui est devant nous. C'est juste une question normale. La mise au point ne doit pas être perçue comme nécessairement un décapitage de quelqu'un, là. une décapitation plutôt de quelqu'un. La mise au point, c'est voyons comment nous pouvons mieux faire les choses. Voyons comment nous pouvons être plus efficaces. Voyons comment nous pouvons être plus près de ce que la Bible nous enseigne à être. Voyons comment nous pouvons amener davantage de fruits dans la maison de Dieu. Tout simplement pour effectivement viser constamment un progrès et fixer constamment une amélioration dans la conduite, dans le travail et dans le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Donc le parakaléo est important, les mises au point sont importantes. Mais il continue en disant, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Par les compassions de Dieu. Ce parakaléo, cette mise au point, ces ajustements qu'on veut traiter, que ce soit au niveau de la théologie, pour avoir une théologie uniforme sur l'ensemble de la famille, que ce soit pour les modes de vie, les pratiques au sein de la famille, que ce soit dans le travail, comment on travaille les uns avec les autres, ou comment on attaque un front, comment on va en campagne ou en bataille. Mais ces choses-là se font par les compassions de Dieu. Et par les compassions de Dieu, ça a deux sens. Le premier sens, c'est que chacune de ces exhortations-là doit se faire avec la compassion, avec la grâce et avec l'amour de Dieu. Encore une fois, on n'est pas ici pour couper la tête des gens. On n'est pas ici pour appliquer des disciplines qui ne sont pas nécessairement une mise au point, mais qui sont plutôt un peloton d'exécution. Quand on parle de discipline, lorsqu'on parle de mettre quelqu'un en discipline, lorsque quelqu'un est en fonction dans l'Église et qu'il chute, on a cette terminologie qu'on met la personne en discipline. Ça veut dire que pendant un certain temps, on cesse d'utiliser cette personne. Mais c'est pas une sanction à soi, la discipline. La sanction, ça devrait être la culpabilité que l'on sent pour avoir péché. Hier, lorsqu'on prêchait hier, on a dit que logiquement, il devrait y avoir une culpabilité, logiquement, il devrait y avoir une mortification, il devrait y avoir des douleurs atroces juste à la pensée de ce que je n'ai pas été en règle devant Dieu. Donc cette pensée-là devrait elle-même être suffisante au niveau de la correction. Toutefois, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est mettre quelqu'un de côté pendant un certain temps et lui donner les outils pour qu'elle se remonte, pour qu'elle se remette en règle devant Dieu et pour qu'elle puisse mettre sur pied, qu'elle puisse mettre comme mode de fonctionnement, qu'elle puisse mettre de l'avant une hygiène spirituelle ou une hygiène spirituelle, une hygiène de vie spirituelle pour bien fonctionner et ne jamais retourner dans cette faute initiale. Donc, je répète, la discipline, lorsqu'on met quelqu'un en discipline, c'est pas une question de, on le met devant nous, puis on a cinq personnes avec des mitraillettes, puis on tire sur la personne jusqu'à ce qu'on ait déchargé nos chargeurs. Non, c'est pas ça la discipline. La discipline, c'est prendre quelqu'un qui a fauté, l'amener à la repentance, l'amener à demander pardon à Dieu et l'amener dans un processus de restauration qui fait en sorte qu'on lui donne les outils pour ne jamais retourner à ce point de chute. Et voilà pourquoi il est important de se rappeler, de comprendre pourquoi on est tombé, afin de faire les ajustements, afin de recevoir les exhortations qui nous permettent de ne pas retomber. C'est ça la discipline. Alors cette discipline se fait avec beaucoup de compassion, doit se faire avec amour, doit se faire avec douceur. Parfois, les termes utilisés peuvent être tranchants, mais ce n'est pas parce qu'ils sont tranchants qu'ils sont nécessairement méchants. Je crois que hier, dans la prédication, il y a eu des thématiques qui ont été abordées et telles que un mot qu'on a étudié hier, « picos », et c'était piquant, c'était tranchant, mais en même temps, je crois que on le faisait avec toute la grâce, toute la compassion et tout l'amour que Dieu nous donne. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu lorsque j'étais en train de donner cet enseignement d'hier. Donc, la discipline s'exerce avec les compassions de Dieu. Mais de surcroît à cela, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est aussi, je vous exhorte donc, frères, en raison des compassions de Dieu. Parce que Dieu vous a aimé, parce que Dieu vous aime et parce que Dieu ne cesse pas de vous aimer et parce qu'il a compassion de vous, je veux donc vous donner les exhortations nécessaires pour que vous soyez en règle avec lui. Des mises au point qui sont nécessaires pour honorer la compassion dont Dieu a fait preuve à notre égard. C'est ça la pensée de Paul. Non seulement faire cette exhortation avec toutes les compassions qui habiteraient Dieu si lui-même faisait l'exhortation, mais de surcroît à cela, faire l'exhortation en amenant la personne exhortée à se rappeler comment Dieu l'a aimé, comment Dieu l'aime et comment Dieu continue à l'aimer. Alors, en raison de cet amour, à cause de cet amour, parce qu'on a bénéficié de cet amour, je veux t'exhorter pour que tu n'ailles pas à l'encontre de Dieu, pour que tes paroles ne déshonorent pas ce Dieu que tu aimes et qui t'a aimé, pour que tes actions ne déshonorent pas ce Dieu qui t'a tant aimé. Donc c'est ça la pensée d'aller dans les compassions ou aller par les compassions de Dieu, exhorter nos frères et nos sœurs. Et j'ai gardé le dernier terme, théos, juste pour quelques instants. Parce que c'est probablement une notion qui est devenue usuelle pour nous. Théos veut dire la divinité, veut dire Dieu effectivement, mais ça nous parle aussi du seul, unique et vrai Dieu. Et je répète, du seul, de l'unique et du vrai Dieu. S'il est effectivement le véritable Dieu, si sa parole, ce qu'elle nous dit, est effectivement la vérité, mais je dois vivre aussi, non seulement avec cette connaissance qu'il est le vrai Dieu, mais ma vie devrait refléter le fait que je sais qu'il est le vrai Dieu. Est-il vraiment le vrai Dieu pour toi? Est-il véritablement le seul Dieu pour toi? Est-il véritablement l'unique Dieu pour toi? Si oui, ben ce que ta vie démontre, cette même croyance. Tu peux proclamer qu'il est le vrai Dieu, mais la question c'est, est-ce que ta vie de tous les jours proclame tout aussi fort que ta bouche qu'il est le vrai Dieu? Et je pense que si on revenait tout simplement à analyser, il est Dieu, il est vraiment Dieu, il est totalement Dieu, il n'y a pas de faille chez lui, il a effectivement fait tout ce qu'il dit qu'il a fait à mon égard. Il m'a vraiment aimé de façon incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer. Si cette pensée m'habitait constamment, mais probablement que j'aurais plus de rigueur envers moi par rapport aux défaillances, par rapport au péché, par rapport à tomber, par rapport à chuter. Probablement que je mettrais de l'avant des choses pour me protéger de la chute, juste parce que je sais combien il m'a aimé et parce qu'il m'a vraiment aimé et parce qu'il est véritablement qui il dit qu'il est, je veux l'honorer. Alors je vais mettre des mesures en place pour m'assurer que mes paroles l'honorent, pour m'assurer que mes actions l'honorent, pour m'assurer de ne pas être en parole ou en action un scandale pour lui, pour ne pas être un sujet de honte, de tristesse pour lui par mes paroles ou par mes actions. Si on a cette pensée qu'il est effectivement Dieu, qu'il règne effectivement, qu'il est aussi merveilleux qu'on prétexte ou qu'on prétend qu'il est, ou qu'on affirme qu'il est, mais si on est impacté, j'aime pas ce terme, mais si on a vraiment eu l'impact de cette connaissance des faits, ben logiquement ça devrait se traduire par nos actions, ça devrait se traduire dans nos paroles, ça devrait se traduire par un changement dans nos attitudes. Alors il est peut-être important pour toi et pour moi aujourd'hui de retourner à découvrir Dieu, de retourner à nous émerveiller devant Dieu, de nous retourner à cet état où nous étions les premiers temps où on a connu le Seigneur et puis c'était l'être le plus important de notre vie, c'était la chose la plus importante de notre vie, de lui plaire. Si on retournait à cette dimension-là, à cet état d'être-là, probablement que on verrait à faire les ajustements nécessaires dans nos vies pour être en accord avec sa parole et pour l'honorer en parole, en action et en réaction. Alors voilà ce qu'on avait pour nous ce matin. On continuera demain en disant, en offrant vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, on va prier. Seigneur, on veut d'abord te remercier de ce que tu prends encore le temps de nous enseigner, de nous parler, de nous exhorter. Dans un premier temps, Seigneur, tu nous mets de côté pour nous exhorter avant que la chute n'arrive. Si malheureusement nous chutons, tu as aussi mis de l'avant cette procédure à travers laquelle on s'écarte du service actif pour se repentir, pour demander pardon, pour remonter, pour nous relever et pour mettre devant nous, pour nous équiper de tout ce qui sera nécessaire pour ne pas rechuter de nouveau. Alors merci Seigneur de ce que tu juges qui est encore opportun de le faire dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore l'occasion de changer. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore l'occasion de pousser de l'avant et d'aller de gloire en gloire. Merci Seigneur, car tu nous donnes encore l'occasion de mieux faire. Avant que Caïn ne fasse l'irréparable par rapport à son frère, tu lui avais dit que le péché campait à sa porte, mais que s'il faisait attention, alors effectivement il relèverait la tête. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix. Nous voulons connaître ta pensée, afin d'être, Seigneur, les bons ouvriers dans ton royaume, afin, Seigneur, d'être les bons frères au sein de la famille, afin, Seigneur, d'être les bons dispensateurs des grâces de ta parole, afin, Seigneur, d'être le bon frère d'armes auprès, Seigneur, de tous mes frères et de toutes mes sœurs au sein de ton armée. Seigneur, ne cesse pas de nous parler. Utilise le moyen que tu désires pour nous exhorter et pour nous enseigner. Et je prie, Seigneur, pour ma sœur, je prie pour mon frère, que tu continues à parler dans leur vie. Je prie, Seigneur, qu'ils n'arrivent jamais à ce point tel que Saül, où toi tu es déjà passé à autre chose. Merci d'étendre ta main, Seigneur, et de toucher mon entendement. Merci d'étendre ta main et de toucher l'entendement de ma sœur et de mon frère, afin que tous ensemble, nous puissions tendre à la stature parfaite de Christ. Continue ton œuvre en nous, Seigneur. Transforme-nous, façonne-nous, change-nous. Et nous voulons, Seigneur, cette transformation et ce changement, en raison, Seigneur, de toute la grâce, de toutes les compassions, de tout l'amour que tu as eu envers nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, nos rencontres pour cette semaine, bien sûr, à tous les matins, on continue avec la bénédiction matinale à 8h30. Vous savez que je me connecte toujours autour de 8h18, 8h19 pour vous donner une petite douzaine de minutes pour vous saluer et puis prendre un peu de temps pour vous souhaiter une bonne journée et avoir un temps de communion qui est véridique bien que distancé. Et donc, vous serez là à 8h30. Du moins, je serai là à tous les matins à 8h18 et on débute notre étude à 8h30. Par la suite, donc, ce soir, étude biblique avec le pasteur André Bernard sur le livre de l'Apocalypse. Mercredi soir, étude biblique sur la thématique « Servir Dieu en temps de défi » avec le pasteur Sergio. Et on se retrouve vendredi soir pour notre temps de prière et d'intercession. On vous rappelle que pour une des dernières semaines, on fonctionne encore avec un effectif réduit à l'Assemblée, 50 personnes maximum, incluant l'équipe en service, donc c'est environ une trentaine de personnes. On l'a spécifié, on l'a rappelé hier, les inscriptions doivent se faire à toutes les semaines, que ce soit maintenant avec les trois groupes qui sont encore admissibles ou que ce soit plus tard lorsqu'on aura étendu l'admissibilité à un plus grand nombre de gens. Mais malgré tout, il faudra toujours s'inscrire à chaque semaine. Donc, pour ce faire, vous appelez au 514-273-8295. 514-273-8295. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et vous indiquez comme quoi vous voulez participer à l'assemblée de dimanche. Les trois groupes qui sont encore admissibles cette semaine, si vous êtes une personne seule qui avait 55 ans et plus, si vous êtes en couple, mais qu'un seul des deux fréquente l'Église et que vous avez 55 ans et plus, ou troisième groupe, si vous êtes un couple qui tous les deux fréquentez l'Église et vous avez 65 ans et plus. Donc, vous appelez dès aujourd'hui et vous laissez votre nom, numéro de téléphone et vous dites « Je veux participer » ou « Nous voulons participer ». Alors, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je prie que le Seigneur puisse vous encourager, vous soutenir, et qu'il puisse oindre la parole d'hier et la parole de ce matin de son esprit et qu'il puisse aller dans des domaines très spécifiques de nos vies respectives pour que le Seigneur fasse son travail. Alors, j'étais content de vous paracaléo aujourd'hui. J'étais heureux d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle les inscriptions. C'est déjà démarré pour l'assemblée de dimanche. Et l'assemblée de ce soir avec le pasteur André Bernard sur le cours sur l'Apocalypse. Alors sur ce, Que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour nous demain matin à 8h30. Au revoir à tous, passez une bonne journée.